la parole de notre Seigneur. Donc vous avez pu voir sur votre petit programme, le thème d'aujourd'hui, c'est le Fils prodigue, fable ou réalité. Alors pourquoi fable ou réalité sur le Fils prodigue? Parce que vous savez que le Fils prodigue, cette histoire fait partie d'une parabole de Jésus, que Jésus a partagée. Et certains pourraient croire que les paraboles, c'est des belles petites histoires, comme les histoires qu'on peut raconter aux enfants. Mais au-delà de cela, à chaque fois, le Seigneur a voulu montrer, expliquer les applications de sa parole, du royaume de Dieu lui-même, au travers d'histoires simples à comprendre. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible si vous souhaitez suivre, votre Bible vous écoutez. Parce que nous allons lire ensemble en fait la totalité de cette parabole. Donc Jésus dit, un homme avait deux fils. Et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la belle robe et leur revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et maintenant, tu ne m'as pas donné, et jamais, pardon, tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est revenu. Voilà, jusqu'ici, la lecture de cette parole. La parabole du fils prodigue est un récit fort en émotion et magnifiquement construit. Plusieurs films ont été inspirés par ce récit. Et il nous présente d'une façon très vivante cette étape qui mène à la perdition et cette autre étape qui mène à la renaissance. Qu'est-ce que le Seigneur veut bien vouloir nous apprendre, nous enseigner au travers de cela? Alors voyons les sept étapes qui ont conduit ce jeune fils, on va dire, dans une descente aux enfers, dans un voyage au bout de l'enfer. Alors, si nous avons bien lu, le verset 12, le fils veut faire sa propre volonté. Donne-moi, dit-il à son père. Vous imaginez vos enfants venir vous voir en disant, donne-moi la moitié de ta maison. Donne-moi la moitié de tes biens. Donne-moi. On apprend toujours aux enfants à dire, d'abord on dit s'il te plaît. Et puis, c'est pas parce qu'on demande, hein, donne-moi. Et là, on s'aperçoit qu'il ne tient pas du tout compte de la volonté de son père. Je veux. C'est mon droit. C'est mon dû. Quoi qu'en pense le père. Et quelles que soient les conséquences pour la famille, conséquences sentimentales et conséquences financières. Et puis au travers de cela, on s'aperçoit qu'on a affaire à une famille aisée. Donne-moi la part de mon héritage. C'est donc une famille aisée qui possède des biens. Alors qu'est-ce qu'il manquait à ce jeune homme? Donne-moi ma part, mon héritage. Parce que pour lui, c'était évident, il y avait forcément sa part. L'héritage de son. Et puis en continuant, donc juste le verset suivant, le verset 13, ayant tout ramassé. Ah! Là on constate qu'il ne veut pas en perdre une miette. Il veut profiter seul de sa part, sans rien laisser à qui que ce soit. Et pour avoir attendu quelques jours, on peut facilement s'imaginer qu'il n'est pas parti avec 100 euros. Mais il a dû partir avec une bonne petite bourse bien remplie. Là, on voit le profil égoïste. Et puis il partit. Voilà. Donne-moi, je ramasse, je pars. Où est l'affection? On ne voit que de l'indifférence. Il ne se retourne même pas, semble-t-il. Pas un au revoir, pas un signe de la main, pas un je reviendrai, pas de regret, pas de remords. Non, donne-moi le fric, comme on dirait aujourd'hui, et je m'en vais. Je pense qu'il est fier de partir. Et il est satisfait même d'avoir obtenu sa part auprès de son père. Et là, on voit un père délaissé. Et alors, pourquoi a-t-il demandé son bien? Oh, pas simplement pour partir. Et on voit qu'il ne le dissipa pas, ou qu'il le dispersa, ou qu'il le dilapida, en fait, il gaspille, quoi, hein, dans la débauche. Le plaisir recherché. La soif du plaisir. Je dirais même la soif des plaisirs. La soif aussi, peut-être et sûrement, de l'émancipation, de l'indépendance. Partir. Oui, certes, il ne faut pas tout comprendre. Là, il n'est pas question de maturité pour quitter le foyer et devenir adulte à son tour et de créer une famille. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et là, c'est dépenser sans compter. Ah, hein, les poches trouées, comme on dit, hein. Allez, qui en veut? Enfin, c'est pas qui en veut, c'est pour moi. C'est mon plaisir. Et là, on s'aperçoit que cette façon d'agir, au travers de cette façon d'agir, on s'aperçoit que le fils n'a pas du tout conscience de la valeur de l'argent. Hein, pour ceux qui commencent à travailler ou qui travaillent depuis peu, là, on s'aperçoit que c'est bien de gagner de l'argent, mais il y a beaucoup de choses à donner de l'autre côté. Et ces quatre premières étapes entraînent son fils dans d'autres étapes de bassesse humaine. D'un seul coup, je pense qu'il devait peut-être s'imaginer que sa bourse était sans fond. Il se retrouva dans le besoin. Quoi ? Lui, habitué au superflu, manque même du minimum vital. Quelle déception, je pense pour lui. Mais vous savez, même les bourses les plus remplies finissent par tarir. Même les comptes en banque les plus achalandés finissent par se vider. On peut jouer aux courses, on peut investir, et puis après, je vous passe tous les exemples que nous avons pu avoir dans les médias ces derniers temps sur l'argent qui part en fumée. Enfin, moi je me dis, pas inquiet parce que je pense qu'il n'est pas parti en fumée pour tout le monde. D'un seul coup, il a perdu son nécessaire. Il est obligé de chercher du boulot. Franchement. Il est obligé de se mettre au service de quelqu'un d'autre, une tierce personne, un inconnu, pour garder les cochons. C'était un des métiers les plus bas, garder les cochons. Quelle descente. Mais bien plus que la descente, c'est quelle humiliation pour un jeune homme juif de bonne famille. Hein, c'est le conte d'un tel qui se retrouve à garder les cochons. Fils d'un homme riche et respecté. Être obligé de travailler. Quelle honte. Et puis, on arrive au verset 16. Oh, il aurait bien voulu se rassasier des choux, des carottes, des choses que l'on donnait aux cochons pour les engraisser, hein. Il aurait voulu se rassasier. La précieuse nourriture qu'il en vit tant est réservée aux cochons. Et là, il est même dit que personne ne se soucie de lui. On ne prend plus. On ne fait plus de cas des cochons de savoir est-ce qu'ils vont bien être nourris, est-ce qu'ils vont bien s'engraisser, mais celui qui les garde, n'a pas de cas pour lui. Vous imaginez quel renversement des valeurs. Vous vous souvenez ce petit jeune homme motard? Hé, hey, papa, donne-moi mon argent, hein, parce que moi je mange. Je veux flamber. Je vais partir avec ma Ferrari et puis je vais aller faire le riche. Et puis d'un seul coup, le riche devient tout pauvre. Quel renversement de valeur. Lui qui n'avait, j'imagine, qu'à s'asseoir devant une table tellement bien garnie que. Plus faim, gaspille, il se retrouve à envier la nourriture des cochons. Lui qui était parti la tête haute et les poches pleines se retrouve à envier la nourriture des animaux. Là, il a atteint le fond. J'imagine qu'il ne devait pas dormir à l'hôtel. Il devait peut-être essayer de voler un petit peu de nourriture. Et puis au verset 17, à partir du verset 17, là maintenant qu'il est bien au fond ce fils, bien il va se passer quelque chose. On va rentrer dans sept nouvelles étapes vers le renouveau, la prise de conscience et la restauration. Alors d'un seul coup, au verset 17, étant entré en lui-même. Une fois qu'il était tourné vers l'extérieur, hein, moi j'ai de l'argent, faites ceci pour moi, je veux ceci, hein, il est vers l'extérieur comme ça, d'un seul coup, ben, puisqu'il n'a plus rien, il est obligé de rentrer en lui-même. Il se rend compte de son état extrême de misère, de sa souillure. C'est l'heure des comptes, mais pas l'heure des comptes en banque, parce que les comptes sont vides. Quand le dénuement survient, quand les attraits et les intérêts ont disparu, le repli sur lui-même l'amène à une introspection. Il est obligé de s'analyser. Et là, j'imagine que les questions fusent pour lui dans sa tête. Qu'ai-je fait? Pourquoi? Comment suis-je arrivé là? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais que va-t-il se passer maintenant? Comment faire? Et puis comment je vais m'en sortir? À la limite, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Verset 18. Je me lève. Imaginez la scène, là, il est bien descendu au fond du trou, dans une position bien basse, et là, je me lève. Donc là, il est obligé de prendre des résolutions. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre. Changement d'attitude. Il s'aperçoit qu'il a péché. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Il faut qu'il se remette debout. Il faut qu'il affronte l'épreuve. Elle peut être difficile à surmonter cette épreuve. Mais il faut surmonter sa honte. Il faut surmonter son dénuement. Et là, l'humilité remplace l'orgueil. L'humilité remplace l'orgueil. Au verset 19, il est dit aussi qu'il il dira à son père, je suis pas digne d'attraper ton fils. Et traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ah oui. Parce que souvenez-vous ce qu'il s'était dit quand il était entré en lui-même. Combien de mercenaires chez mon père ne vivent pas en abondance. Ah. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je ne suis plus digne. Là, il mesure la gravité et l'énormité de sa faute. Le voici abaissé à aller voir son père. Ah, il est loin. Le fiston qui disait à papa de m'amener sous pour que j'en aille. Je vais faire ma vie. J'ai marre d'être avec toi, ça suffit. Je peux faire ce que j'ai envie de faire, mais j'ai besoin de. Là, il s'aperçoit qu'il s'est complètement trompé. Il a fallu qu'il se retrouve dans le dénouement pour arriver à cette pensée. Traite-moi comme un mercenaire parce que je ne suis plus digne d'être. Et au verset 20, il se lève. Il se rend compte que c'est la seule chose qui lui reste à faire, c'est de retourner vers son père. Et là, c'est le retour. Les conséquences de ces réflexions l'amènent à retourner vers papa. C'est le temps de l'action. C'est le temps du repentir. C'est le temps du demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Et là, on va arriver. Parce qu'il prend le chemin du retour, il retourne dans sa famille, il retourne voir papa. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Le verset 20, c'est un verset charnière. On s'y attardera après, un peu plus tard. Mais là, voyons ce qui se passe. Il se lève, il va sur le chemin. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Papa, il n'attendait qu'une chose, c'est le retour de son fils. Et là, il reçoit son fils. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils, avant qu'il n'ait eu à dire quoi que ce soit, il avait préparé son discours. Hey, papa, j'ai péché, papa, c'est pas bien ce que j'ai fait, j'ai dépensé tout l'argent. Et puis je me suis moqué de toi. Je n'ai pas respecté. J'ai tout dépensé avec. J'ai joué, j'ai tout perdu. Et son père ne prend même pas de question. Il arrive, il se jette à son cou et il l'embrasse. C'est le temps de la réconciliation. Et puis quand papa le voit arriver comme ça, Il était mis aux larmes. Et le fils lui dit quand même, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'attraper ton fils, au verset 21. Mais le père, on a l'impression que le père, il n'écoute pas. Parce que le père, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il parle à ses serviteurs. Et il dit, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Il lui dit même pas, mon fils, te pardonne. Oh oui, c'est déjà fait. Dès qu'il a vu son fils au loin, il avait déjà pardonné dans son cœur de père. C'est l'heure du revêtement. Apportez la plus belle robe. Parce que vous imaginez quelqu'un qui a gardé des cochons, qui a dormi, je ne sais dans quel endroit. Il devait sûrement être précédé par son odeur. Et puis il devait être des vêtements sales, troués, nauséabonds. Mais papa, c'est pas ce qu'il regarde. Papa, c'est son fils qui dort. Le fils reçoit un pardon complet, sans questionner. et finit les haillons qui empestent le corps. Papa demande à ses serviteurs de lui amener la plus belle robe, et puis de lui mettre un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Puis vient l'heure des réjouissances. Versets 23 et 24. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Pourquoi il dit ça le père? Parce qu'il savait que le fils avait mené une vie débauche. Il était mort. Il avait renoncé à la vie de à côté de son père. À une vie droite. Le fils qui était mort est revenu à la vie. Celui qui était perdu est retrouvé. Oubliez cette histoire. D'un seul coup, tout ce qui s'est passé, le temps que le fils a passé loin de son père, ce temps-là est oublié. Oubliez la détresse, oubliez les chagrins, oubliez les regrets, oubliez la honte. Et ça nous fait penser à ce verset. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quand on pense à ce verset-là, ça me fait penser à la réaction de notre fils. Ça me fait penser à cette parole de Jésus quand il dit « Si un berger a 100 brebis, et qu'il y en a une qui s'égare. Et 99 autres, c'est la souffrance. Le berger va les laisser et il va les chercher. Celle qui s'est perdue. Combien de choses à retenir et à apprendre dans ce récit. Et on pourrait se poser ces questions par rapport à cette parabole qui a été écrite des milliers d'années. Quelles sont les motivations de la jeunesse d'aujourd'hui? Oh, sûrement une certaine recherche d'indépendance, mais on ne voit pas forcément d'autonomie. Une recherche d'argent facile, profiter et tout avoir. Nécessaire, bien sûr, mais également le superflu. Vous savez, celui qui permet de se sentir exister. J'aimerais avoir ça pour me sentir exister. J'aimerais bien avoir une belle bagnole pour me sentir exister, pour me sentir reconnu. Cette jeunesse, notre jeunesse d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a la notion d'argent? Mais bien plus, il y a cette perte de la prise de conscience des besoins des autres. Ce fils, au profil égoïste, désobéissant, orgueilleux, trouve en lui quelques illustrations dans la Bible. Pour conclure, dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 20, j'aimerais quand même vous laisser ces quelques versets avant de terminer sur le fils. Colossiens 3, 20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Éphésiens chapitre 6, verset 1er, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » De Timothée chapitre 2, verset 22, je lis assez vite, mais vous pouvez les retrouver après sur l'enregistrement. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur. » Mais dans 1 Timothée au chapitre 4, au verset 12, il est écrit aussi « Que personne ne méprise ta jeunesse. » Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et Matthieu au chapitre 15, au verset 4, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère. » Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le fils voulait être le maître de son avenir. Vous voyez quelles conséquences il a eues. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et puis la prochaine fois qu'on se verra, d'ici deux semaines, on reverra l'histoire du Père. Et puis on fera la relation aussi avec notre Père. Et puis, avec le deuxième fils. On verra un peu quelle a été sa réaction, même si on a...